Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Depuis 19 ans, Alice Nevers, désormais procureur et non plus juge, nous accompagne sur TF1 avec la charge émotionnelle très troublante que Marine Delterme sait lui donner. Le jeudi 22 octobre, sur la une à 21h, Alice Nevers sera embarquée dans une enquête à bien des titres singulières, puisque la guest star en sera l'animateur le plus emblématique d'M6 qu'on connaît, fantasque, empathique et totalement décomplexé, l'irrésistible Stéphane Plaza. Intriguant à souhait ce soir-là sur TF1, dans un rôle auquel il donne une épaisseur inattendue. Alors l'occasion était trop belle pour ne pas les réunir. Marine Delterme et Stéphane Plaza sont mes invités.
Europe 1.
Bienvenue à tous les deux.
Merci.
Bonjour. Marine Delterme, Stéphane Plaza. Pour plusieurs raisons, c'est inattendu de vous voir tous deux réunis dans cet épisode visionnaire d'Alice Nevers tourné avant le confinement et qui met en scène le rythme infernal des médecins urgentistes. D'abord, Alice Nevers, depuis la dernière saison, effectivement n'est plus juge, elle est procureure, car les procureurs se déplacent davantage que les juges sur les scènes de crime. Et Stéphane Plaza, vous êtes dans le rôle de composition le plus éloigné de ce que l'on connaît de vous, puisque vous êtes un médecin urgentiste tourmenté qui cache un lourd secret. Alors, même si vous n'avez pas joué ensemble, puisqu'au début de l'épisode, c'est vous, Stéphane Plaza, qu'on assassine, donc toutes vos scènes sont des flashbacks, bah, franchement, on ne s'attendait pas du tout à vous retrouver un jour dans une même enquête criminelle.
C'est vrai, peut-être pas non plus sur cette chaîne-là, il faut quand même le dire.
Donc, en plus
mais c'est ce qui m'intéressait aussi, c'est d'avoir quelque chose à contre-emploi complet, plutôt quelqu'un d'enfermé, de taciturne et qui a ses soucis personnels et justement plutôt l'inverse du côté jovial de l'animateur et plein de vie. Celui-ci a d'autres préoccupations, c'est de sauver justement les vies dans un hôpital où il est très tourmenté et il doit faire des choix de vie. C'est la vraie vie de l'hôpital. En plus, on est en plein dedans en ce moment, donc tant mieux, même si ça a été tourné bien avant le Covid.
Alors, petite question d'ordre contractuel, Stéphane Plaza.
Oui.
Comme vous êtes l'animateur phare d'M6, on peut penser que télévisuellement, vous êtes paxé avec Nicolas de Taverneau, le boss d'M6. Or, vous pouvez être infidèle à votre chaîne quand il s'agit de tourner une fiction.
C'est surtout pour Marine aussi. Hein. J'ai été voir. Je veux bien être infidèle pour des raisons sérieuses, parce que le rôle m'intéressait, parce que j'ai cette liberté aussi de contrat pour le faire, du moment que j'assure derrière, et parce que voilà, il y a des moments où il faut faire des choix. J'ai fait ce choix-là parce que j'étais complètement à contre-emploi et que j'avais la chance d'y aller.
Bon, alors il est temps maintenant de nous livrer le pitch de l'épisode vraiment intrigant qui vous réunit donc dans cette nouvelle saison d'Alice Nevers. Qui s'y colle?
Marine, elle connaît bien, ça fait 19 ans. Vas-y.
Non, alors comme cette série, et c'est vrai, c'est sa force depuis toujours, et sociétale, on ne fait pas que des faits divers, on apprend toujours. Et moi, j'apprends toujours quelque chose devant un scénario d'Alice Nevers, de toute façon. Là, ça traite d'un sujet qu'on avait déjà compris et qui s'est accéléré pendant le confinement, bien sûr, avec les problèmes du Covid, c'est le manque de moyens aux urgences. Donc, il ne faut pas spoiler l'histoire, mais en tout cas, il y a un homme qui est là, qui est urgentiste et qui va devoir choisir entre deux vies, faute de moyens, et essayer de réparer les dégâts. Donc c'est vraiment, on est au cœur du réacteur, et c'est vrai que c'est assez visionnaire, et voilà, je pense qu'on a malheureusement déjà, on l'a vu d'ailleurs quand on tournait, comme tu dis, dans les vrais hôpitaux, c'était quand même un peu tendu, c'est difficile, ça s'est accéléré pendant le confinement, voilà, on en est là, et ça recommence avec la deuxième vague, donc c'est un sujet d'actualité, on va dire, oui.
Alors, ce rôle, effectivement, Stéphane Plaza, il représente un vrai défi. Il y a une double composition, votre personnage qui cache un secret lourd et dans un tourment profond. Et puis, c'est un urgentiste très apprécié de ses collègues. Donc, la gestuelle spécifique, si singulière de celui qui sauve des vies malgré le compte à rebours, et puis les bonnes attitudes à avoir. Comment vous avez travaillé tout ça ?
Ben, j'ai la chance de fréquenter des gens dans le médical, donc forcément je m'y suis attardé. J'ai la chance aussi d'avoir regardé au repos beaucoup de séries, et il y en a beaucoup sur le médical, et donc il a fallu faire très attention. Et puis j'ai été dans, comme c'était bien avant le Covid qu'on a tourné, on avait accès aux hôpitaux assez facilement.
Donc vous avez été coaché ?
J'ai été coaché, bien sûr, ne serait-ce que pour le massage cardiaque ou pour les gestes qui sont assez simples, parce que Stéphane Plaza est quand même d'une nature très maladroite.
Oui, vous êtes...
Donc pour que ça soit crédible,
légendaire pour ça.
Pour que ça soit crédible et aussi pour comprendre ce que le dialogue, parce qu'il y a, il y a un dialogue aussi un peu précis. C'est un urgentiste, même si, si c'est rapide dans les hôpitaux et qu'on, qu'on formule tout, il fallait comprendre ce que je disais, et donc j'ai été sur place, oui.
Mais c'est pas des dialogues faciles, en plus.
Voilà.
Marine Delterme, alors, incarner sur la première chaîne de télé française un procureur, est-ce que ça pousse à suivre de très près l'évolution du système judiciaire dans ce pays ?
Moi, je suis beaucoup l'information de manière générale, pas que le système judiciaire, mais c'est vrai que je suis en ce moment ce qui se passe avec Dupond-Moretti. Oui, c'est fascinant. C'est la réalité toujours dépasse
la fiction.
Voilà. Donc, mais j'ai eu la chance. Ça, c'est un grand moment. On me demande parfois dans la série quels sont vos moments qui vous ont marqué. C'est vrai que quand j'étais un procureur, comme ça, on a tourné dans cette fameuse grande au palais de justice de Paris, cet endroit-là, la chambre, je ne sais pas le numéro de cette chambre, mais celle où toute l'histoire a été faite, l'histoire de France, et maintes fois dans des documentaires, j'ai vu cette salle hein, pendant pas mal de les procès, Pétain, etc. Donc j'étais très émue de me retrouver dans cette salle et de tourner là, en fait. Voilà, c'était un moment fort pour moi.
Et peut-être que ça vous replongeait, en fait, dans les souvenirs de jeunesse avec ce début d'études de droit que vous avez fait.
Oui, moi j'avais fait des études, mais pas
vous
très longues.
Hein.
J'ai fait 7 mois à SAS. Mais j'ai pas...
être avocate, n'est-ce pas ?
Je voulais être avocate, exactement. Voilà. Ouais, c'est ce que je voulais faire. C'est pour ça que quand on m'a proposé ce rôle-là des années après, c'était le moment, je crois. J'ai envie de le faire.
C'est en compagnie de Marine Delterme et Stéphane Plaza qu'on chemine cet après-midi. Alors on fait une pause très très courte et on les retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Tout ce qui compte pour vous existe après Leclerc. C'est le plat préféré d'un tiers d'entre vous, la raclette.
Vous savez ce qui est terrible ?
Non.
Ne pas avoir assez de fromage pour couvrir toute la charcuterie.
C'est pas faux.
Heureusement, chez Leclerc, du 13 au 24 octobre, pour l'achat d'un paquet la raclette classique Richemont, 26% de matière grasse, de 420 grammes origine France, il y a 60% de réduction immédiate sur le deuxième pack acheté.
Un deuxième paquet à moins 60%, c'est plus sûr.
Voir modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
La télé a parfois de l'imagination, tant mieux. Le 22 octobre, à 21h sur TF1, Marine Delterme et Stéphane Plaza sont réunis par une enquête très inattendue d'Alice Nevers. Alors Stéphane Plaza, vous dont le premier métier est de trouver pour vos clients l'appartement idéal dans lequel ils rêvent de poser enfin leurs valises, eh ben j'ai découvert que vous étiez un vrai Tanguy, car vous avez vécu chez vos parents jusqu'à l'âge de 30 ans, alors que personne déjà à l'époque n'était mieux placé que vous pour décrocher un bon plan et trouver le nid idéal. Vous expliquez comment cette réticence a trouvé votre endroit à vous ?
On va dire, quand vous avez le linge à la maison, le frigo plein et que vous pouvez faire des économies, pourquoi partir ? Vous voyez, il faut être pragmatique. Il faut faire un pécule pour pouvoir mieux acheter. Comme ça, on a moins d'emprunts et on fait des meilleures affaires. Donc, je faisais plaisir et à maman et à papa. Et en plus, je faisais le petit écureuil.
Parce que la majorité des garçons à peine majeurs veut s'affranchir en fait, des parents en quittant le nid familial. Vous vouliez effacer en fait l'âge adulte et ses responsabilités, c'est votre côté Peter Pan ?
Oui, peut-être c'est le côté Peter
Pan. En plus que de faire des économies ?
Oui, c'est le côté Peter Pan. Et puis c'est aussi le côté, il ne faut pas oublier que je suis d'origine espagnole et que la famille est très importante et qu'on n'est pas obligé de s'affranchir très tôt. On peut très bien entendre avec, en étant intergénérationnel, il faut juste avoir des consignes. Et donc ça m'allait très bien. J'avais une liberté totale, même je n'avais pas d'horaire, juste un toit. Et donc ça m'allait très bien.
Donc vous avez attendu l'âge de 30 ans ?
Oui, 33 ans. Même l'âge du Christ pour partir.
C'est extraordinaire. Je savais pas.
34, c'était trop tard.
Ouais, hein, 34, c'était,
foutu.
C'était trop tard. Hein. C'est pour ça que j'ai fait attention. J'ai 33, 50 ans pour tourner avec Marine. Vous voyez, j'ai quand même des choses très importantes. Hein.
Alors, vous, Marine Delterme, vous avez été arrachée très jeune au cocon familial par le mannequinat, puisque un talent scout vous a abordé toute jeune fille sur une plage pour vous proposer un contrat avec une agence, comme ça a été le cas pour Laetitia Casta. Mais à cette époque-là, comme on l'a évoqué tout à l'heure, vous étiez en fac de droit à Assas, car vous imaginiez devenir soit avocate, soit notaire, c'est ça ?
Oui, un notaire. Oui, notaire, mais ce n'est pas ce que je rêvais de faire. Mais moi, c'est vrai que je suis partie à l'inverse de toi, très tôt, à 17 ans. J'ai eu mon bac à 17 ans, j'ai commencé, à 17 ans et demi, je n'étais plus là.
Oui. Moi, je n'ai pas eu le bac non plus. Hein. Vous emmerdez complètement à l'inverse.
Si, toi, t'es pas eu ton bac. Non, mais je suis partie tout de suite. Voilà, moi, c'était l'inverse. J'étais contente de voir le monde. Mais j'avais la chance de pouvoir voyager, de faire des choses extraordinaires. Ça m'est tombé un peu dessus. Mais tout en me sentant toujours un peu usurpatrice. parce que j'avais pas la taille, parce que j'avais pas le profil et que j'ai réussi à me débrouiller pour avancer dans cette carrière, mais c'était pas gagné.
Alors, on disait notaire à l'instant, mais notaire, dans la tradition des romans de Balzac, c'est une profession qui permet d'être le gardien des secrets de famille et d'être confronté à des situations qui révèlent ce que l'âme humaine cherche toujours à masquer en société. C'est ça qui vous fascinait ?
Ouais, c'est ça qui me fascinait absolument. J'ai dans ma famille quelques notaires, donc ils me racontaient depuis beaucoup d'anecdotes sur ce qui se passait dans leur bureau, et je trouvais ça, comme vous dites, assez extraordinaire. On le sait, on le redit, mais l'argent... Ce qu'on lègue, évidemment, on raconte aussi l'amour. Donc, ça faisait beaucoup de situations assez rocambolesques à raconter. Donc, je me disais, tiens, être en rapport au monde. Et d'ailleurs, j'avais pensé à un moment pour essayer de faire une série là-dessus, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à raconter, même dans une fiction, autour de ça.
Bien sûr. Donc, vous aviez plusieurs notaires dans votre famille, mais vos parents, eux, avaient avant tout une fibre artistique pour laquelle ils ont abandonné d'ailleurs leur premier métier. Ils ont changé de vie pour faire de la restauration d'œuvres d'art. Que faisaient-ils avant ?
Ma mère n'a pas complètement changé de vie parce qu'elle était intendante, donc elle était fonctionnaire. Et mon père était ingénieur en électricité. Et après, il a fait ça, ouais, exactement. Mais ma mère a continué jusqu'au bout.
Alors, elle a eu une vie parallèle.
Je vivais au lycée Chaptal à Paris, dans les appartements de fonction de ma mère. Voilà.
Bon, d'une certaine façon, vous leur devez votre autre vie, celle de sculptrice qu'on va évoquer tout à l'heure.
Oui.
C'est
oui,
eux qui vous ont initié dans à l'art.
Oui. Ouais. Et d'ailleurs, on peut initier un enfant sans aller dans des musées, par exemple. Ce que je fais avec mes enfants, quand on marche dans Paris, savoir, toi tu dois le savoir.
Savoir
parce que
regarder.
Tu as l'œil, regarder un immeuble, regarder la multiplicité des possibles sur... Par exemple, le format haussmannien, les variantes à l'infini qu'il peut avoir, savoir regarder, lever la tête, observer, c'est quelque chose qu'on peut éduquer et transmettre dès le départ.
Votre père à vous, Stéphane Plaza, est un ancien champion cycliste.
Ça n'a rien à voir avec les notaires.
Brillé. Oui, mais attendez, il a brillé sur les pistes du Veldiv. Il a été champion de France et surtout champion d'Europe de poursuite olympique avec les GPS, c'est pas anodin. Et il a même remporté des courses sur piste au Japon, donc brillante carrière. Je crois qu'il a été professionnel pendant 10 ans. Morale d'acier, tempérament de battant, vous lui devez le goût du challenge ?
Je pense que oui, j'ai cette hargne en moi. Je partirais sur un 100 mètres avec Usain Bolt. Je serais persuadé de gagner, en tout cas au départ, pendant le premier mètre. Après, ça s'arrêterait très vite. Mais en tout cas,
Mais vous êtes en train de nous dire que l'important, c'est d'y croire.
Oui, tout à fait. En tout cas, dès que je fais quelque chose, que ce soit dans la vie professionnelle ou même personnelle, j'y crois à fond et je vis l'instant présent. Donc je me donne les moyens de réussir ce que je fais. Mais effectivement, j'ai cette hargne de vainqueur ou de champion, en tout cas, qui tient de mon papa. C'est au moins une petite graine.
Alors, j'imagine que votre père avait déjà rangé son vélo quand vous êtes né, mais il vous emmenait voir des courses quand vous étiez enfant. Il avait gardé des amis parmi les stars du milieu.
Poulidor, par exemple. Tonton Poulidor, j'ai beaucoup été avec Tonton, avec Poulidor, que ce soit aussi avec Bernard Hidot, tout ça. Tout, j'ai été avec beaucoup, mais alors, c'est 57, donc moi je suis arrivé un peu plus tard. Il était un peu plus âgé, mais bien sûr, j'ai fréquenté le vélo et ce monde populaire, ce sport qui est magnifique. Oui.
Marine Delterme, c'est formidable parce que j'ai en face de moi deux invités dont les vies sont, les parcours si différents. Vous, à l'âge de 17 ans, donc repéré par un talent scout alors que vous faisiez votre droit à SAS pour être notaire, voilà que vous posez pour les plus grands photographes de mode au monde, de Richard Avedon à Peyton Lindbergh. Vous, Stéphane Plaza, à 18 ans, vous êtes encore assez loin du star system, même si vous allez le rattraper. Je voudrais savoir s'il est vrai que en fait, vous n'aimiez pas les études, Stéphane. Elle ne vous aimait pas.
Oui, c'est surtout
ça. On vous
a
demandé donc d'entrer en fait dans la vie active en faisant un choix entre 3 jobs. Vous allez me dire si ça s'est passé comme ça. Il paraît que on vous a dit voilà, vous pouvez sans aucun diplôme, vous pouvez devenir secrétaire médical, vous pouvez devenir croupier dans un casino ou dernier choix, agent immobilier.
C'est exactement ça. J'avais ces 3 possibilités-là, on va dire, par la famille. Et donc, j'ai choisi agent immobilier. Secrétaire médical, c'était le terme qui ne me plaisait pas à l'époque.
Croupier.
Oui, croupier, c'était la nuit. Donc, je préférais sortir un petit peu parce que je devais travailler à Pigalle, mais surtout la nuit. Et je me suis dit, là, je vais avoir une vie complètement décalée. Donc, j'ai fait agent immobilier.
Par défaut,
au début. Au départ. Et le virus de l'agent immobilier est tout de suite arrivé, puisque je crois que le premier mois, j'ai fait un record qu'ils n'avaient jamais fait, parce que j'ai fait 50 locations en un mois. Et donc, ils m'ont demandé de... Évidemment, je travaillais le samedi et le dimanche, ce qui n'arrive très peu aujourd'hui, hein, et sans horaire. Et je ne partais pas à 18h comme certains de mes employés, mais enfin, ça, c'est un autre problème. Mais donc, forcément, il y avait cette passion aussi de, et cette volonté de réussir quand on n'a pas d'études et de montrer qu'on est capable ou qu'on vaut autant qu'une autre personne. Donc, c'est l'investissement à fond, oui.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Je reçois Marine Delterme et Stéphane Plaza. Marine Delterme, quand on regarde les sublimes photos de mode faites par Richard Avedon dans les années 50, on constate que les critères selon lesquels on choisissait les mannequins étaient les mêmes en fait qu'aujourd'hui. L'univers de la mode a des codes inchangés depuis 60 ans, alors que la mode représente l'éphémère réinventé. C'est-à-dire qu'un mannequin se doit toujours d'être gigantesque, bien sûr. 1m80, c'est mieux qu'1m75. Et ultra mince avec des jambes kilométriques. Sinon, aucune chance de faire carrière. Or vous, Marine Delterme, vous qui avez posé pour les plus grands photographes de mode au monde, de Peter Lindbergh à Richard Avedon, de Dominique Iserman à Paolo Roversi, vous vous décrivez, ce sont vos mots, hein, comme ronde et presque petite. Alors comment avez-vous réussi à les pulvériser, ces critères?
D'abord, il n'y avait pas de française à l'époque, très peu. Et donc, j'ai noué des vraies relations et des vrais rapports de travail. Ils étaient contents de me voir arriver, les photographes, en fait. Parce qu'enfin, une Française, on va parler normalement. Et tu manges normalement, parce que j'ai une grosse gourmande, quand même. J'avais un immense plaisir à poser pour ces hommes-là. Je ne sais pas si c'est ce qu'on m'avait dit avant, mon éducation artistique, le fait de collaborer avec ces grands photographes, de rentrer dans leur univers, de parler avec eux, d'avoir un échange.
Votre curiosité naturelle.
Voilà, ma curiosité naturelle, et qui faisait qu'il y avait un rapport comme ça qu'on a trouvé ensemble, et j'ai posé pour eux avec vraiment grand bonheur. La chance aussi, et puis voilà, moi j'ai essayé de garder ma personnalité. C'était un peu ça que j'ai essayé de trouver un chemin dans tout ça. Et voilà, ça m'a réussi, et tant mieux. Mais c'est un métier difficile. On n'est parfois pas très bien traité. Ce n'est pas évident. Donc, il faut essayer de garder la tête haute plutôt que la tête froide.
C'est au cours d'une séance photo à Deauville pour Marie-Claire que vous avez rencontré celle que vous définissez comme la sœur que vous n'avez pas eue et dont vous serez plus tard d'ailleurs le témoin de mariage, Carla Brunet. Ensemble, à seulement 17 ans et demi, c'est ça, 18 ans, vous avez décidé de partir donc à New York et de vous y installer pour tenter votre chance. Qu'est-ce qui a été le plus magique, le plus difficile, le plus exaltant? Qu'est-ce qui, dans cette aventure, vous a le mieux armé pour la vie? Parce que c'est quand même très jeune de partir ainsi dans The Big Apple, française.
Surtout que c'était, pardonnez-moi, mais c'était le New York de l'époque, c'est-à-dire avant Giuliani, c'est le New York...
plus insécure.
Ah bah oui, c'était une ville qui était quand même en déficit total et qui était... extrêmement violente, et on sortait des années 90, on était encore dedans, c'est-à-dire c'était une ville dangereuse.
Mais bon, c'était moi, une ville où, pour votre métier de mannequin, ouais, les choses vraiment se connectaient, on va dire, de façon ensuite internationale.
Voilà, non, c'était un rêve, et comme les Américains, et ça c'est la grande force des Américains, on arrive, on est personne, et on a accès tout de suite au plus grand, c'est-à-dire qu'ils vous donnent votre chance, très vite. Mais en tout cas, j'ai eu accès à des gens de la mode, des gens talentueux.
Alors justement, par exemple, qu'apprend-on lorsqu'on pose devant l'objectif de Peter Lindbergh ou de Richard Avedon? Légende absolue de la photographie.
Albert Watson aussi, j'ai beaucoup aimé avec Albert. Ce qu'on apprend, c'est de collaborer avec eux, de leur proposer des choses, d'être très active en fait, de proposer son univers, sa façon de poser, sa façon de porter les vêtements, je ne sais pas, c'est une collaboration en fait.
Pendant ce temps-là, alors que Marine était à New York, il rit, Stéphane Plaza, qui prend toujours son temps.
Il était à Pluto.
Qui prend son temps, pour prendre son envol. Et bien voilà, il paraît que pour vous faire de l'argent de poche, Stéphane, vous vendiez des fleurs juste à l'entrée de la boîte, des bains-douches, en regardant avec une certaine envie, j'imagine, entre les stars de la télé. Et vous voyez défiler à l'époque les animateurs qui jetaient un regard ou pas. Il y en a un, paraît-il, qui était très sympa, c'est de la rue.
Oui. Non, mais ce qui était assez drôle, c'est parce que d'une maman fleuriste, forcément, j'allais vendre le muguet devant les bains-douches, parce que je connaissais très bien Marilyn, celle qui faisait la pluie et le beau temps des bains-douches. Et effectivement, j'ai rencontré beaucoup de personnes devant, Ruquier, de la rue, des personnes que j'ai revues, ou d'autres, Bruno Solo, etc. Et d'autres, certains que j'ai revus, d'autres qui étaient un peu plus froids. Mais en tout cas, c'est assez drôle. drôle parce que de rien ne me disait que j'allais les revoir plus tard et même être invité à leur table ou travailler pour eux. Donc c'était assez amusant, oui. Mais effectivement, je travaillais jusqu'à 3h du matin ou 4h juste devant la porte, au froid sans doute, pour faire un peu d'argent de poche. Parce que
avant d'aller retourner au petit matin dans une agence immobilière.
Oui, avant d'aller au petit matin dans une agence immobilière, je peux vous dire que je n'avais pas toujours les yeux ouverts quand j'arrivais à 9h du matin et tout ça, en tout cas. Mais voilà, c'est la vie qui a été comme ça. Il faut se donner à fond dans le travail et les portes peuvent s'ouvrir. En tout cas, si on tente les choses, je crois toujours au destin.
Oui, et ben effectivement, ces débuts dans une agence immobilière ont été absolument fulgurants, puisque dès le premier mois, vous finalisiez plus de dossiers que tous les autres agents réunis. Alors j'imagine que bien sûr, le contact humain, c'était déjà votre atout. Alors, vous avez gagné en responsabilité au fil des ans, tout allait pour le mieux. Quand, en 98, bah vous faites une chute terrible, Stéphane, dans un escalier, une chute qui va occasionner 8 mois d'hôpital, 7 opérations, et vous laissez dans un fauteuil roulant. Les médecins vous ont vraiment dit que vous ne marcheriez plus jamais.
On m'appelait le comte de Perrac, c'est vrai, parce que je boitais. Et même ma maman me le disait et tout ça. Donc c'est pour ça aussi que je me suis donné au sport et que j'ai eu la chance après d'aller au CERS, mais j'ai eu 7 à 8 opérations. Et quand j'ai commencé la télé, dès le mois de fin juin, je me faisais opérer. Et la production était même inquiète parce qu'elle ne savait pas dans quel état j'allais ressortir, entre guillemets, de l'opération. Parce qu'eux, ils avaient calé évidemment leur tournage en septembre-octobre. Mais oui, j'ai eu beaucoup d'opérations et après, c'est à force de volonté. Mais j'aurais pu être très aigri et dire voilà, qu'est-ce qui m'arrive, etc. On va dire que je l'ai pris comme le destin d'une vie et qu'il fallait que je reste positif et heureux parce que c'est des personnes qui sont venues, qui étaient eux en fauteuil, qui m'ont dit « Steph, toi, tu as une chance de pouvoir marcher. Nous, on ne l'a plus. Donc, tu vas t'accrocher à ta chance et à la vie pour nous faire rire encore. » Voilà.
Stéphane Plaza, c'est bien vous que j'ai vu courir il y a peu le marathon de New York, hein, 42 km.
Courir, bon, je ne sais pas le faire, oui.
Mais vous l'avez terminé. Non, mais c'est extraordinaire. En oui. 6h30 à peu près, il y a très très peu de gens qui en sont capables. Alors, je voudrais savoir, en fait, vous en êtes sorti parce que vous avez rencontré les bons chirurgiens ou surtout parce que vous avez une volonté de fou furieux?
J'ai rencontré un ami qui est chirurgien, mais avant de le rencontrer, j'ai rencontré des fantômes chirurgiens aussi parce que c'est très brutal. C'est aussi cette vie-là qu'on raconte aussi un petit peu. Pour eux, ça paraît tellement normal, mais ce qu'on vous dit, vous ne marcherez plus quand on vous est en face, etc. Ça peut être brutal et il y a encore des dialogues qui peuvent être plus puissant quand on parle de maladies encore plus graves. Et après, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un dans un centre de rééducation qui m'a pris, qui m'a dit « Écoute, Stéphane, viens à Noël », alors qu'il ne me connaissait pas, et qu'on a fait connaissance avec un chirurgien de Puig, je me rappelle très bien, qui est un ami, et qui lui m'a sorti. Et après, c'est une volonté de faire, en tout cas, pour faire mentir ces personnes qui m'avaient dit que je ne marcherais plus.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
TF1 les réunit le 22 octobre à 21h dans une enquête d'Alice Nevers qui va vous tenir en haleine. Je reçois Marine Delterme et Stéphane Plaza. Stéphane Plaza, alors la plupart des gens rêvent de faire de la télé, mais c'est plus chic quand la télé s'entiche de vous sans que vous n'ayez rien fait pour ça. On est en 2005, dans un salon de l'immobilier à Paris. Bon, la veille, vous avez fait la fête, vous avez un petit peu trop bu avec des potes, vous avez le cheveu en bataille, vous êtes en jean, basket. Quand l'équipe de Réservoir Prod, qui fait un casting sauvage dans les allées de ce salon pour trouver un agent immobilier qui ne ressemble pas à un agent immobilier, vous aperçoit et a un flash. Vous nous racontez la suite ?
Bah c'est vrai que j'avais pris une mine la veille, donc j'étais pas très bien, pas très frais en tout cas. Et ils faisaient le tour pour trouver des témoins. Et donc ils m'ont dit, mais pourquoi vous êtes en basket et tout ça? Et forcément, moi je ne savais pas qui s'était renseigné, qui savait que j'avais pris une sacrée caisse la veille. Et donc je leur ai proposé du rosé, je leur ai donné tout le discours de l'agent immobilier classique. Et ils ont dit, celui-là il est drôle pour Paris, on va peut-être le prendre en plus. En tout cas, on va tenter de lui faire le casting. Et comme les salons, c'est très très dur, je devrais pas le dire parce que j'ai des collaborateurs qui font les salons immobilier, mais on piétine et tout ça. On m'a autorisé à faire le casting et j'étais très content de partir faire le casting et j'ai fait un casting sauvage.
D'échapper à la morosité ambiante,
oui,
c'est ça ?
Oui, d'échapper, puis surtout de prendre l'air parce que j'avais besoin de me rafraîchir et d'avoir du vent un peu dans les cheveux.
Voilà. Prendre l'air devant les caméras. Stéphane, quand on vous a demandé de faire ce casting, on vous a présenté comment le projet d'émission ?
On a dit, bah voilà, ça va être une émission sur l'immobilier. Donc forcément, à chaque fois que j'allais quelque part, on me disait, mais c'est pas un vrai métier. Il n'y avait pas une très belle image. Donc c'était important pour moi parce que c'est le métier que j'aime et que je continue à faire. Et donc, voilà, j'ai été plutôt naturel et en tout cas volubile, on va dire. Et ça les a intéressés de me prendre en plus. Et après, Jean-Luc Delarue m'a donné cette chance. J'ai pris l'émission et je suis jamais sorti de l'émission.
Extraordinaire. Celui, en fait, qui vous permettait de temps en temps de rentrer au bain douche quand vous étiez ado. Voilà. Alors, à la télé, Stéphane Plaza, vous avez créé un genre, celui du professionnel qui n'a aucun des codes du professionnel, ni d'ailleurs aucun des codes de l'animateur télé. Et le succès a été fulgurant, puisque l'année suivante, M6 vous a confié de nouvelles émissions. D'abord, je voudrais savoir comment a réagi l'agence immobilière qui vous employait avant le casting sauvage, parce que vous avez dû les abandonner.
Non, parce qu'au départ, je faisais les deux et on s'arrangeait pour tourner le week-end. J'ai toujours eu cette volonté de ne pas abandonner ce que je faisais. Donc, voilà. Après, j'aime travailler et je me passionne dans la vie du travail. Et donc j'ai pu faire les deux. Et après, quand on vous dit que vous allez être pris dans une émission et que vous allez faire votre métier à la télé, ben ça fait drôlement flipper parce que vous dites « Moi, je ne connais pas les codes, je ne connais pas les choses, la télé fait quand même peur. Qu'est-ce qu'ils vont raconter ?» Tout ça, surtout que ce n'est pas une télé-réalité, mais un docu-réalité. Donc, on est dans la vraie vie quand même, oui, avec des vrais gens. Voilà. Et puis, vous flippez, vous dites « Mais si je fais mal, comment je vais être jugé? Je vais perdre ma place ?» Est-ce que j'ai le niveau pour le faire et donc ça vous pousse encore à plus travailler.
Alors, attirer les regards, vous en rêviez puisque vous avez pris pendant plusieurs années des cours de comédie au conservatoire de Neuilly. Mais effectivement, la télé, c'est une loupe particulière, c'est un curieux microscope. Les codes, le bon dosage, vous l'avez maîtrisé comment? Parce que dans la vie, vous êtes quelqu'un effectivement de totalement décomplexé et dans une empathie fabuleuse. À la télé, il faut doser. Il faut savoir freiner au bon moment ou bien vous êtes totalement laissé aller à ce que vous êtes.
Il faut écouter les gens sans les écouter. C'est-à-dire que ce qui m'a sauvé, c'est l'humain. Et après, vous savez, vous avez des réalisateurs. Il faut pas qu'on vous mette dans un moule. En tout cas, vous avez votre nature et vous ne devez pas ressembler à... Si on m'avait pris, c'était pour ma personnalité. Et j'ai eu la chance que dans l'immobilier, en fait, à la télé, on n'y connaissait rien. Donc forcément, on ne pouvait pas me bloquer ou m'enfermer dans une case parce qu'il y a des choses techniques et j'avais la chance d'être un vrai professionnel parce que je suis autodidacte dessus. Donc j'ai pu faire des choses. Et par exemple, quand il me dit disait de ne pas mettre une écharpe rose, et ben le lendemain, je mettais des gants roses. Et je les mettais au moment de l'offre. Comme ça, voilà, je ne rentrais pas dans les cases. Et je me suis toujours dit que tout ce que je faisais à la télé, ils pouvaient le diffuser. Donc mon image avait peu d'importance parce que je le faisais avec amour et avec un truc d'humain que peut-être à la télé, on a un peu moins ou on a plus des stéréotypes.
Alors vous aussi, Marine Delterme, vous avez... plusieurs vies qui se succèdent de façon inattendue, car bon, passer du mannequinat au cinéma, c'est bien sûr passer de l'image fixe au mouvement, passer de la pose à l'incarnation soudain sonore. Au cinéma, la beauté ne fait pas partie du talent, elle devient juste une chance, un bonus. Mais il faut le prouver, le manifester, le livrer, ce talent. Comment ça s'est passé alors?
J'étais pas à ma place, un peu comme Stéphane, on débarque toujours à des endroits où on n'a pas vraiment... vraiment, enfin, on n'est pas forcément légitime. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis arrivée au cinéma, c'était l'époque des films, vous vous souvenez d'Agnès Varda, Antoine Ilouard, enfin, c'est l'époque, oui, des actrices
très réalistes. Très naturalistes.
Très naturalistes. Et donc, moi, j'arrivais de ce monde-là où ce n'était pas du tout bien vu. Donc, c'était difficile au départ, ce n'était pas simple. Les actrices étaient beaucoup plus nature, il n'y avait pas de contrat avec les cosmétiques. Enfin, tout ça a complètement changé depuis. Les actrices sont beaucoup plus en lien avec la mode maintenant aujourd'hui, mais ce n'était pas bien vu en fait à l'époque.
Alors, jouer, vous avez tout de suite adhéré au fait d'être une autre, de parler avec les mots d'une autre, de défendre les convictions d'une autre. Vous savez pourquoi je vous pose la question? C'est parce que je me souviens de la réponse très savoureuse de votre amie Carla Bruni, qu'on interrogeait justement sur le métier d'actrice. On lui demandait pourquoi, comme sa sœur Valeria Bonitedecki, elle n'était pas tentée par le cinéma. Et elle avait répondu cette phrase que je trouve absolument formidable. « C'est déjà si compliqué de parvenir à être soi-même, alors pourquoi tant d'efforts pour sembler être quelqu'un d'autre ?»
Ouais, c'est justement parce que c'est plus facile. Puis c'est beaucoup plus facile d'aller chercher sa vérité dans d'autres personnages, d'aller toucher des facettes de soi qu'on n'aurait pas encore peut-être trouvées ou cherchées ailleurs.
On la trouve
ailleurs.
Vraiment, sa vérité, dans d'autres personnages?
Alors, on peut composer des rôles, hein, on peut composer plus suivant les aventures, mais moi, ce que j'ai aimé toujours dans mes projets, c'est, et d'ailleurs je vais en parler d'Alice Nevers, parce que je suis un peu comme Stéphane. Quand je suis arrivée, moi, sur Alice Nevers, j'arrivais du cinéma, j'avais fait donc des films commerciaux, des films d'auteur, des choses assez différentes. Mais je ne connaissais pas la télé. Donc quand je me suis engagée là-dedans, alors que tout le monde nous disait de ne pas y aller, parce que c'était en plus extrêmement mal vu d'avoir une actrice qui vient du cinéma qui va faire une série, c'était le pire. Et en fait, quand je suis arrivée, j'étais dans des codes de la télé, c'est-à-dire un peu comme toi, très précis. On m'imposait, je vais porter certains vêtements. Enfin, moi, je n'étais pas du tout habituée à ça. Et c'était l'époque des héroïnes TF1. J'ai l'impression que c'est la préhistoire. C'est-à-dire, il y a 20 ans, c'était l'héroïne parfaite, qui n'avait pas le droit à la mauvaise foi, à la colère, qui n'avait pas d'émotions négatives, avec très peu de vie privée dans
les
épisodes.
Mais tout ça a évolué avec la société.
Et tout ça a évolué avec la société. Et aussi, moi, j'ai eu la chance à TF1, par une petite histoire un peu personnelle, c'est que je suis tombée enceinte de mon deuxième fils et j'ai pas voulu tourner, j'ai pas pu tourner l'année de ma grossesse parce qu'elle était un peu fragile, donc j'ai pas voulu et donc ça a été panique à bord pour TF1 la production qu'on dit faut que tu tournes enceinte, on va aménager ça, on va garder l'histoire, tu vas être enceinte dans la série, ce qui est nouveau puisque en fait à l'époque fallait pas feuilletonner, fallait pas raconter d'histoire privée et du coup de force quasi on est rentré par ce biais-là et c'est à partir de là que la série a complètement décollé. Au niveau d'Audimat et femme, enfin ménagère, complètement adhéré à cette série parce que j'étais, je crois, j'espère pas me tromper, la première à avoir vraiment un tiers des épisodes alloués à ma vie privée. Et on a commencé à tricoter autour de ça. Et je cache pas que si j'avais pas eu ça, je serais peut-être pas restée.
Alors cet après-midi, Marine Delterme, Stéphane Plaza, vous êtes réunis pour un même épisode de La Vie, donc je le rappelle, qui passe le 22 octobre à 21h, mais vous n'avez pas joué ensemble. C'est une vraie frustration, puisque Stéphane, en fait, ne se trouve dans des scènes qui ne sont que des flashbacks. Donc vous venez nous parler d'une enquête qui vous réunit.
Mais j'ai enquêté sur lui, j'ai beaucoup réfléchi à lui. Non, non.
Il va falloir imaginer voilà, un autre épisode enfin vous puissiez vous donner la réplique.
Ou autre chose, il a l'œil qui frise, j'adore.
Ouais, mais c'est possible,
Ben oui, tout est possible.
Je trouve que Stéphane dit ça avec une telle assurance que
c'est fort possible.
C'est en cours d'écriture.
Non, mais je crois au destin, je pense qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Vous savez, ce qui est le plus important, même si on est toujours en train d'apprendre quand on est acteur, c'est la sincérité. Et la sincérité, on va la chercher dans ce qu'on a vécu. Et quand on a des parcours très forts, qu'ont été en tout cas les deux vies qu'on a, la sincérité, on l'a parce qu'on arrive à aller chercher des choses très fortes en nous et après à les mettre dans les personnages. Et quand on est sincère, tout passe.
On retourne tout de suite Marine Delterme et Stéphane Plaza.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Je reçois Marine Delterme et Stéphane Plaza. Alors, Stéphane, parallèlement et grâce à la télé, il y a une sacrée aventure qui a démarré en 2013, comme un prolongement miraculeux de votre succès sur M6. C'est la naissance de votre réseau d'agences immobilières franchisées. Pour ça, il fallait les bons partenaires. Alors bien sûr, M6 amène l'extraordinaire visibilité. Vous apportez votre notoriété, votre tempérament, votre nom. Et vous trouvez deux associés au rein solide qui ont déjà bâti des réseaux immobiliers à l'échelle nationale. Tout prend forme. En 2015 et en 2020, eh bien le réseau Stéphane Plaza Immobilier compte 540 agences qui tournent à plein régime. Et on ne va pas en rester là. Je voudrais évoquer la concurrence. Parce que vous le savez bien, il y a toujours des esprits chagrins. Et certains esprits chagrins, justement, y voient un mélange des genres autour d'un montage commercial. Vous leur répondez quoi, Stéphane Plaza ?
La vie est un mélange des genres. Ce qui est important déjà, c'est que c'est moi qui ai proposé ce projet, puisque je suis autodidacte de l'immobilier, que j'ai fait tous les métiers de l'immobilier. C'est-à-dire que je suis passé à la gestion, etc. Mais depuis 18 ans, je travaille et j'en ai 50. Donc je pense que déjà, en tant qu'agent immobilier, je suis plutôt calé. Et qu'après, c'est moi qui ai proposé ce projet aux deux personnes qui sont associées avec moi, et à M6 et à une autre, Patrick Kinder et Bernard de Crémier, qui est parti trop vite, mais qui est là. Et donc, c'est une association en fait entre gens responsables. Et après, au départ, on a pu se poser la question, mais j'ai la chance de travailler avec les autres réseaux, que ce soit Monsieur Villemont de Ceinturi 21, Orpi, Guy Hoquet aussi, Stéphane Friss et tout ça, donc tout va bien. Au départ, on a pu s'inquiéter, mais je pense que de voir un monde de la télé arriver dans l'immobilier, ça a aussi boosté tout le monde, voilà. Parce que ça met en avant et qu'on est encore plus professionnel et qu'il y a une concurrence certes, mais elle est saine.
Ça crée des vocations
et plus l'immobilier sera devant, plus il y aura de gens performants, en tout cas dans l'immobilier, dans tous les réseaux.
Alors, j'ai quelques petites questions à vous poser justement sur l'immobilier. Depuis le début de la crise sanitaire, Stéphane Plaza, on dit tout et son contraire sur les tendances du marché immobilier. Est-ce qu'il y a réellement une tendance à l'exode du cœur des villes vers leur périphérie et vers la campagne.
Non, il faut savoir que le confinement a eu cette force de recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la santé et sur le logement. On va dire que le confinement, chez certains, s'est très bien passé. Ils ont décidé de prendre plus grand. Chez certains, il s'est très mal passé. Et donc, ils ont décidé de vendre. Donc, il n'y a pas une pénurie de logements. Et après le déconfinement, en tout cas, les villes marchent très fort. Et aussi, tout ce qui a terrasse, verdure, maison secondaire, en tout cas, a été prise d'assaut. Mais il n'y a pas d'exode des grandes villes pour la campagne. Il y a un intérêt sur les deux.
Souvent, pour acheter, il faut d'abord avoir vendu. C'est vous qui avez lancé en France le home staging, cette technique qui fait fureur depuis longtemps dans les émissions américaines et qui consiste à relooker à moindre frais une maison sans charme pour séduire un maximum d'acheteurs. Et il paraît, Stéphane, que dans un couple, dans 95% des cas, c'est la femme qui choisit la maison à acheter. Le home staging, donc, c'est pour elle.
Je dirais même à 98%, il faut savoir que c'est la femme qui décide dans l'immobilier. Après, il faut se méfier quand même des 2%. Mais je peux vous dire que quand une femme a dit oui, la vente est faite. Quand une femme n'a pas visité et que vous avez visité avec un homme et que vous avez une contre-visite avec une femme, accrochez-vous. Quand il a dit oui, la vente n'est pas faite. Il se trouve que dans l'immobilier, c'est souvent la femme qui décide oui.
Alors, les maisons, on les achète et puis ensuite, eh bien, il faut leur donner une âme, les singulariser par le choix des objets, des tableaux ou des sculptures. Et alors là, je me tourne bien sûr vers la sculptrice.
Quelle traversée.
Oh mon Dieu, incroyable, improbable. Alors, Marine Delterm, vous confiez, mes parents peignaient. J'ai commencé à dessiner, mais je n'ai pas trouvé mon trait. Lorsque mon père s'est mis à la sculpture, j'ai essayé avec lui et tout de suite, j'ai trouvé mon geste. Dans la sculpture, il y a donc une implication physique par la gestuelle.
C'est les mains qui parlent.
Oui, certes, c'est les mains, mains aussi qui tiennent le pinceau, qui tiennent le crayon. Donc là, il y a une danse particulière autour d'une matière brute qu'il va falloir façonner.
Oui, c'est pas comme la peinture, c'est vrai. D'abord, on est en trois dimensions dans la sculpture, donc les mains prennent l'espace totalement. Et c'est vrai que quand je sculpte, enfin, ça fait quelques temps que je ne l'ai plus fait d'ailleurs malheureusement, mais c'est vrai que je peux parler, discuter, faire autre chose. C'est pas moi qui parle, c'est mes mains. Hein. Donc c'est particulier.
C'est drôle de dire ce n'est pas moi qui parle. Comme si le geste en fait impliquait justement la forme, mais comme si ce n'était pas une réflexion.
Au final, pardon, il y a toujours une réflexion. Sûr, la difficulté, ce que m'a dit Ousmane Sow d'ailleurs, ma première expo, il était venu la voir, et puis il s'était arrêté, c'est incroyable, juste sur la sculpture que je n'avais pas arrêté moi, mais que mon mari m'avait dit d'arrêter. Parce que des fois, on s'obstine sur des choses, il a dit tu arrêtes, c'est bien. Et il s'était arrêté, il a dit il ne faut jamais laisser quelqu'un décider pour vous d'arrêter à un moment donné. Je dis, mais c'est incroyable que vous dites ça sur celle-là. Donc c'est vrai qu'il y a juste un moment où l'intellect reprend, quand à un moment, sinon c'est sans fin, on peut sculpter sans fin, refaire un visage. Et donc à un moment, on dit, ok, c'est bon, c'est ça. C'est le seul endroit.
Je suis allée regarder des photos sur le DET d'exposition que vous avez faites, parce que vous avez exposé à New York, vous avez exposé à Paris. J'étais très impressionnée par vos visages de terre crue, ou de bronze d'ailleurs, au regard douloureux, écarquillé dans le silence, des visages d'enfants très souvent. Et j'aimerais savoir si vous préparez une prochaine exposition.
Non, alors ça c'est ma blessure. En fait, j'ai arrêté de travailler, d'être comédienne pendant 4 ans, pour des raisons pour aider quelqu'un. Et c'est pendant ce temps-là que j'ai pu vraiment travailler le plus mes expositions, travailler avec une marque et faire mes expositions. Et j'avais le temps et l'espace. Et puis après, en fait, pour être une artiste à part entière, je dirais, il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de latence, il faut beaucoup de temps mort, il faut beaucoup de vide. Et après, quand j'ai repris le chemin des studios, c'était beaucoup plus difficile. Donc le côté, je tourne et puis le lendemain, j'ai 2 jours où je fais rien, je vais à l'atelier, ça ne marche pas.
Ça marche
et d'ailleurs,
pas.
J'avais un atelier à moi et puis j'ai demandé à mon mari, qui m'a gentiment suivi, comme tu dis, sur ce couloir, disant, on déménage, je veux mon atelier chez moi pour être plus en interaction avec ça. Et ça a été une catastrophe puisque, au contraire, même si j'avais, comme dit Virginia Woolf, une chambre à moi, l'interaction avec le milieu familial a fait que ça m'a complètement annulée. Je n'ai plus rien fait. Voilà.
Il n'y a plus en fait d'élan créatif.
Mais alors,
je peux trouver
un atelier, Marine. Si je peux rendre service, moi.
Alors, écrire, peindre, composer, sculpter, effectivement, ça isole, contrairement au métier d'actrice qui est toujours dans le partage. Cette solitude qui vous enveloppe quand vous êtes dans un atelier, à sculpter, à malaxer, à chercher des formes, elle vous apprend des choses sur vous.
Alors ça,
là,
c'est
vous
drôle
êtes en
que...
manque, par exemple. Non, vous avez besoin d'y retourner.
Non, c'est drôle que vous disiez ça parce que j'ai découvert une chose très fondamentale chez moi qui m'a beaucoup surprise pendant le confinement. Moi qui suis une solitaire, D'abord, je suis fille unique, donc j'ai été élevée dans la solitude et je l'ai meublée, enfin, je l'ai habitée sans problème. Mais j'étais une solitaire contrariée. Donc, quand j'étais à l'atelier, ça allait très bien. Quand j'étais sur les tournages, j'ai toujours un petit peu. Ces interactions constantes me fatiguent. Donc, j'ai toujours à un moment une sorte de surplus, de trop-plein. Mais là, pendant le confinement, le fait d'être isolée aussi longtemps, sans interaction réelle, m'a beaucoup manqué. Donc, j'ai découvert une facette de moi-même qui est que je ne peux pas vivre sans lien, plus que je ne pensais, en fait. Donc, je pense que je serai maintenant dans ma vie moins solitaire et plus en demande de lien.
Voilà. Et je vois derrière son masque les yeux de Stéphane Plaza se plisser dans un grand sourire. Voilà.
Pourquoi ?
Non, oui, parce que c'est assez marrant, parce que moi, c'est l'inverse. J'ai besoin de solitude, enfin, entre guillemets, parce que peut-être je suis boulimique, etc., mais avec la télé, etc. Et moi qui me pensais ne pas être solitaire, je trouve que dans ce monde-là, de temps en temps, se ressourcer et revenir à l'essentiel sur soi, ou parce que je ne le faisais pas assez, peut-être, ça me fait du bien d'être solitaire. Sans s'enfermer complètement, mais de s'isoler pour retrouver l'essentiel me fait du bien et j'en ai besoin, alors que je pensais être plutôt volubile et bien sûr que je suis dans le partage, mais pour me ressourcer et garder mes valeurs, j'ai besoin d'être seul aussi. Donc c'est assez drôle.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Stéphane Plaza, faut pas croire que vous n'intéressez que les producteurs français. J'ai appris une chose très très étonnante. Il paraît que vous avez été approché pour tourner dans la saison 3 de Strange Things, une série américaine d'horreur très très fameuse avec Winona Ryder, une série qui est diffusée sur Netflix. Donc les Américains s'intéressent à Stéphane Plaza.
En tout cas, les Américains, on va dire que c'était pour la bande-annonce, c'était pour arriver sur la plateforme Netflix, etc. Oui, j'ai été plus qu'approché.
Et racontez-nous tout, plus qu'approché.
Plus qu'approché, c'est qu'on m'a proposé, oui, de tourner. Mais vous savez que ce contrat ne me permettait pas à M6 d'aller sur une plateforme concurrente, on va dire, qui s'appelle Netflix. Donc, je n'ai pas pu aboutir sur ce projet, mais je devais aller normalement, même à Atlanta, pour tourner. En tout cas, c'était la bande-annonce.
Mais alors, comment vous avez-t-il repéré ? Comme ça, un producteur français en voyage à Paris ouvre sa télé, voit Stéphane Plaza.
J'espère que mon anglais a porté ses fruits, mais je pense plutôt que c'est les Américains qui ont donc des antennes en France. Et forcément, ils travaillent avec des boîtes de com. Et en tout cas, mon nom était ressorti. Et puis après, sur Internet, on voit bien les choses. Et c'était justement c'était quelque chose d'assez marrant, puisque je devais aller vendre cette maison.
La fameuse maison hantée.
La fameuse maison hantée, justement, dans cette bande-annonce pour faire la promotion en France. Donc,
fois fiction, mais rôle pas tout à fait de composition non plus.
Pas tout à fait de composition, alors qu'en général, je refuse de faire les agents immobiliers, mais là, c'était une telle série que, évidemment, de mon côté, j'avais accepté. Après, j'ai eu une fin de non-recevoir par mes patrons. Bon, c'est comme ça, j'ai un contrat et j'ai un peu boudé, mais ça a été.
Voilà. Un peu boudé, on va remettre à plus tard. Oui. Donc, jouer avec Winona Ryder, c'est ça ?
Oui, en tout cas, je vais travailler mon anglais pour le faire.
Bon, à défaut de tourner aux États-Unis, Stéphane Plaza, vous allez peut-être ouvrir là-bas votre réseau immobilier avec des agences en Floride, en Californie.
Est-ce que je vais le faire là-bas ? Peut-être, si on me demande à moi, j'irai plutôt sur Tahiti, mais après, pourquoi pas, tout est possible. En tout cas, il y a des demandes qui ont été faites. Après, c'est pas d'ouvrir, c'est de surveiller, de gérer, et d'avoir la même chose que je demande en France, et de respecter un peu les contraintes de cette franchise.
Si j'entends bien, Tahiti, en fait, ça y est, ça va ouvrir dans peu de temps.
Je sais pas que ça va ouvrir, mais je me dis, à 50 ans, si je peux aller un peu plus à Tahiti, pourquoi pas.
Bon, en attendant, vous êtes surbooké avec tous les tournages pour M6, de maison à vendre à chasseur d'appart, avec la préparation d'un programme déco pour Gulli, avec des enfants, et puis avec une pièce de théâtre à partir du 21 janvier, une pièce mise en scène par Jean-Luc Moreau, dans laquelle vous interpréterez, alors avec votre maladresse légendaire, un magicien, c'est ça ?
Magicien un peu ringard, on peut le dire. Oui, c'est ça, et c'est écrit par Laurent Ruquier. Et je vais avoir la chance d'avoir comme partenaire Valérie Mérès et Jean-Philippe Janssen. Et donc, je serai l'époux de Valérie Mérès. Voilà.
Donc, en fait, vous bossez 22 heures par jour ?
Non, mais je me plais à travailler.
Marine Delterme, alors ce projet qui vous tient tant à cœur et qui pour la première fois vous fera passer derrière la caméra, ce film sur l'amitié méconnue qui a uni deux grands hommes au soir de leur vie, Georges Clemenceau et Claude Monet, il se prépare ? Vous avez achevé le scénario ?
Oui, on est en train de travailler sur le scénario, exactement. Ça, c'est mon rêve. Ça, c'est un grand rêve. Voilà. Quand on parlait de sculpture, c'est vrai que c'est passé un peu derrière parce que j'aimerais réaliser depuis très longtemps et j'ai trouvé. On est venu me chercher pour réaliser ce film.
Ah.
Et donc, ça me plaît beaucoup. Voilà. Ça me plaît.
Alors, ce sera la première fois que vous direz, vous époumonant, vous direz moteur. Ce sera en 2021.
J'espère. Là, tout est un petit peu chamboulé avec le Covid. Tout est compliqué au cinéma. Les productions reculent. Enfin, voilà, je pense que vous êtes au courant, mais c'est pas évident. Donc, on n'a pas les dates exactes. Mais oui, bientôt.
Vous pouvez nous dire quelques mots sur... L'UNAFAM, dont vous êtes la marraine très impliquée, Marine Delterme, l'UNAFAM qui soutient, alors j'ai appris, 4,5 millions de personnes en France. Hein. Il paraît que ce sont les policiers et les juges qui travaillent sur votre série Alice Nevers qui vous ont alerté.
Non.
Non.
Ah non, 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 non. Non, non. Moi, j'étais confrontée dans ma vie à... et entourée de gens qui avaient des problèmes et qui n'ont pas été traités à temps et que j'ai perdu des amis. Et j'ai vu ça très longtemps et donc je me suis vraiment intéressée à ça et j'ai rencontré cette... Association, ils sont assez exceptionnels parce qu'en fait, en France, la santé, enfin, on ne sait pas encore reconnaître, on ne sait pas encore prédire assez tôt les troubles, les 5 troubles, les grands troubles qui existent en psychiatrie, c'est-à-dire les TOC, les dépressions sévères, la bipolarité, la schizophrénie. Et souvent, il y a un retard de diagnostic, même dès l'enfance, parce que les pédiatres ne sont pas formés à amener un enfant chez un pédopsychiatre quand il y a des TOC, des troubles anxieux, des choses comme ça qui prennent de l'ampleur et qui détruisent la vie des gens. Et donc, il faut vraiment faire encore un travail de prévention, de structure. Et donc, l'UNAFAM s'occupe des aidants, parce que souvent, comme il n'y a pas de relais par la médecine traditionnelle, c'est les proches qui s'occupent de ces gens qui souffrent, qui ne savent pas quoi faire, souvent pendant de nombreuses années, et qui n'ont pas d'appui. Donc, c'est vraiment une... Et puis alors, la psychiatrie, c'est une médecine très particulière, puisque en général, quand on est malade, dans toutes les autres, dans le corps médical, on demande à son médecin, on est d'accord, de nous aider, de nous soigner. La psychiatrie est quand même une discipline où, en général, la moitié des patients vous disent « mais je vais très bien ». Donc, il y a tout ce travail de conscientisation par rapport à une fragilité qu'ils ont.
Par rapport au déni.
Au déni, déjà dans les familles. Puis eux, donc c'est un énorme travail. Et je suis très engagée sur cette association parce qu'ils font un boulot formidable. Et qu'il y a quand même une grande partie de la population qui souffre de ces troubles-là, qui ne le savent pas. Et on est un pays très en retard là-dessus.
Marine Delterme, en vous écoutant, je pense à cette phrase de Françoise Sagan. Ce n'est pas parce que la vie n'est pas élégante qu'il faut se conduire comme elle.
Exactement, j'aime beaucoup cette phrase.
ça pourrait être, n'est-ce pas ? Ça pourrait être une sorte de devise, pour tous les deux d'ailleurs.
C'est beau.
Kenzi impliqué, n'est-ce pas ? C'est pas parce que la vie n'est pas élégante qu'il faut se conduire comme elle.
Bien sûr.
C'est tout à fait vrai surtout. Je pense qu'il faut, pouvoir essayer en tout cas d'être le plus élégant possible avec soi-même et s'aimer soi-même pour être élégant avec les autres. Donc cette phrase, elle est exceptionnelle parce que dans la vie, on a des choses drôles qui arrivent, des choses moins drôles. Est-ce que c'est le destin ? Peu importe. Mais en tout cas, il faut essayer de se tenir avec une ligne de conduite.
Je vous remercie infiniment tous les deux. Je rappelle que le 22 octobre à 21h sur TF1, Marine Delterme et Stéphane Plaza vous attendent pour une nouvelle enquête d'Alice Nevers, aussi intrigante que bien ficelée. Je vous dis à très bientôt, très vite.
Et je vous souhaite
de tourner ensemble, alors dans les mêmes scènes, puisque comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il s'agit de flashback là.
Ça va se faire.
Ça va se faire.
Avec très bientôt. Plaisir. À bientôt. Merci.